normas, ergámonos mulleres, rachemos as barreiras, ente, 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 ente. Reconhecémonos todas mulleres, no sentir do noso xa, oprimidas as mulleres, queremonos revelar, ergámonos mulleres.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, pour commencer, je vais relayer un communiqué d'Oser le féminisme par rapport au nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement, la preuve que la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon ne suffit pas à faire une politique féministe. La nomination d'Elisabeth Borne à Matignon est le début d'un rattrapage nécessaire. Sous la Ve République, seules 2 femmes ont accédé à cette fonction, contre 23 hommes. Néanmoins, Oser le féminisme rappelle que la nomination d'une femme à Matignon ne fait pas une politique féministe. Elle ne saurait masquer la reconduction de Gérald Darmanin dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur, celle d'Éric Dupond-Moretti à la justice, et ni la promotion de Stanislas Guérini au gouvernement, quelques jours après ses propos inacceptables pour défendre l'investiture de Jérôme Peyrat, condamné pour violence conjugale en Dordogne. Nous condamnons fermement ces 3 nominations. La nomination d'une première ministre ne saurait non plus masquer la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement lors du premier quinquennat dont Elisabeth Borne fut ministre du Travail et de l'Emploi. Nous avons alerté sur les conséquences délétères pour les femmes de plusieurs réformes, en particulier sur le travail. La réforme de l'assurance chômage pénalise les personnes précaires qui enchaînent les contrats courts, en majorité des femmes. La réforme des retraites, telle qu'envisagée jusqu'alors, pénalise les carrières hachées, là encore en majorité, des femmes. L'ouverture des commerces le dimanche a accentué les horaires atypiques des femmes ayant des bas salaires et souvent des enfants à garder. Enfin, le quinquennat a été une grande occasion manquée en matière de revalorisation des métiers du soin, très majoritairement occupés par des femmes, alors que ceux-ci sont absolument essentiels pour notre société, comme l'a montré de façon flagrante la crise du Covid-19. Elisabeth Borne a tenu à dédier son discours d'investiture à toutes les petites filles. Nous l'appelons désormais à prendre des mesures fortes. 1 milliard d'euros que nous demandons depuis tant de temps pour lutter contre les violences masculines selon les recommandations du HCE. Nous demandons une politique ambitieuse de revalorisation des métiers féminisés. Nous demandons une réelle application de la loi de 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel et des politiques publiques fortes en matière de lutte contre la pornocriminalité. Nous demandons une reconnaissance de l'amnésie traumatique et l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Nous demandons un accès à l'IVG pour toutes les filles et les femmes, sur tout le territoire français, métropole et outre-mer. Nous apporterons notre appui à la Première ministre et à Isabelle Rome, nouvelle ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, si elles mettent en place des mesures concrètes sur ces enjeux essentiels à la vie, voire à la survie, de millions de femmes. Par contre, nous jugerons les politiques portées et leur impact sur les droits des femmes, indépendamment du sexe de la Première ministre. Voilà. Alors, pour poursuivre, je vais vous parler du contrôle sexuel et reproductif des femmes. Nos vagins et nos utérus, le contrôle sexuel et reproductif des femmes, voilà le grand enjeu du patriarcat. Ceci est par rapport au livre, déjà, de Céline Pic. Elle a écrit un livre, donc elle est porte-parole d'Oser le féminisme. Un livre qui s'appelle « Déviriliser le monde ». Voilà ce qu'elle en dit. Françoise Héritier, anthropologue, rappelle une évidence. Les femmes disposent du privilège exorbitant d'enfanter, et depuis des millénaires, les hommes n'ont eu de cesse de contester ce privilège. Pour les hommes, il est nécessaire de s'approprier la fécondité des femmes et de se les répartir entre hommes, de les emprisonner dans des tâches domestiques liées à la reproduction, et simultanément de dévaluer le tout pour mieux les soumettre à leur domination.
Voilà un beau petit résumé de ce qu'est le système patriarcal. C'est dans cette perspective historique et anthropologique que Céline Pic, dans son livre « Déviriliser le monde », décrypte la façon dont le patriarcat, aidé par les religions et la médecine, ont longtemps refusé aux femmes leur autonomie reproductive et sexuelle. Les féministes ayant lutté pour le droit à l'avortement dans les années 70 ne s'étaient pas trompées. Dans le contexte actuel de recul du droit à l'avortement aux États-Unis comme en Pologne, au Sénégal, le manifeste des 343 est terriblement actuel et subversif. Il ne réclame pas le droit à l'avortement simplement pour des raisons de santé publique. Il exige que le ventre des femmes cesse d'appartenir à leur mari, à l'État, aux médecins, aux religions, et que les femmes parviennent au contrôle complet de la production d'enfants. C'est ce que nous rappelle Céline Pic dans cet essai qui réussit à dessiner une politique radicalement féministe à l'aune des grands textes féministes comme ceux de Françoise Héritier ou comme le manifeste des 343. Donc je rappelle le titre de son livre « Déviriliser le monde » que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies, et elle organise aussi des rencontres. Donc le 31 mai s'est passé à Grenoble, le 1er juin à Lyon, le 2 juin à Toulouse, le 10 juin à Avignon, le 16 juin à Rennes, le 24 juin, et beaucoup d'autres dates que vous pouvez consulter sur donc, le site d'Oser le féminisme. Alors, pour poursuivre donc sur le sujet de l'IVG, comme il vient d'être dit, nous assistons à un fort recul, un contexte de recul de ce droit, notamment aux États-Unis, et je n'avais pas eu le temps d'en parler, donc je vais vous en parler maintenant. Aux États-Unis, où la Cour suprême revient sur le droit à l'avortement. Les États-Unis s'engagent sur la voie de la suppression du droit à l'avortement adopté en 1973. L'obsession des conservateurs à contrôler le corps des femmes est sur le point de gagner aux États-Unis. C'est un projet de décision de la Cour suprême qui est encore en discussion et qui voudrait renverser l'arrêt Roe Wade de 1973 et ainsi engager les États-Unis sur la voie de cette vraiment suppression du droit à l'avortement. C'est un journal, le journal Politico, qui a révélé cette information, sinon on ne l'aurait pas su, et qui note que les juges conservateurs prétendent agir au nom du droit à la vie privée. Fin de citation. Cela fait des années que l'ultra-droite manœuvre pour écraser l'arrêt Roe v. Wade, qui avait consacré pourtant le droit constitutionnel à l'avortement en 1973, donc il y a près de 50 ans. Et parce que Donald Trump a nommé 3 juges lorsqu'il était président, eh bien, c'est devenu possible. Effectivement, après la mort de Ruth Bader Ginsburg, l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, a nommé Amy Coney Barrett à la Cour suprême. C'est une femme donc anti-IVG, ce qui a fait basculer la plus haute juridiction dans le camp conservateur, qui compte aujourd'hui 6 juges sur 9. Le projet d'avis de 98 pages révélé par ce journal Politico est rédigé par un juge, le juge Samuel Alito, qui affirme que Roe était une erreur flagrante dès le départ. C'est très grave parce qu'en l'annulant, chaque État aurait alors la possibilité d'adopter sa propre législation sur l'interruption volontaire de grossesse. Environ la moitié des États pourraient bien bannir ce droit sur le sol, même en cas d'inceste ou de viol, pour certains. Plusieurs États ont déjà posé des jalons, comme le Texas. Depuis le 1er septembre, l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse est interdit, même en cas d'inceste ou de viol. Et au Texas, les citoyens sont même encouragés à attaquer en justice toute institution ou personne aidant une femme à avorter. La loi prévoit que ceux qui engageront des poursuites percevront au moins 10 000 dollars de dédommagement. Donc nouveaux chasseurs de primes, nouveaux chasseurs, nouvelle chasse aux sorcières aussi, je dirais. Il vient de sortir, j'ai vu dans Courrier International, une interview de Margaret Atwood, qui, la fameuse écrivaine qui a écrit sur les servantes écarlates. Et elle dit que, voilà, elle parle de tout ça, c'est catastrophique. Et elle dit que ce juge Samuel Alito, en fait, fait reposer tout ça sur une jurisprudence qui date carrément du XVIIe siècle. Donc, en fait, c'est un retour en arrière au temps du XVIIe siècle. Au temps, en fait, c'était le temps de la chasse aux sorcières. Et il sera très difficile, dit-elle, de réfuter, par exemple, les femmes pourront tout simplement être facilement accusées de, par exemple, de fausses IVG, même dans le cas de fausses couches ou voilà. Donc, je viens de parler du Texas, donc nombreux États qui risquent, voilà, déjà au Texas c'est fait, qui bannissent ce droit, on risque d'en avoir environ la moitié. Il y a aussi récemment l'Oklahoma, le 19 mai dernier, qui, d'après mes informations, lui aussi a adopté une loi bannissant l'IVG, et ce, carrément, dès la fécondation. Il y a aussi le Mississippi qui, si le projet était adopté, donnerait raison dans une affaire concernant la tentative de cet État d'interdire la plupart des avortements après 15 semaines de grossesse au lieu de 24. Dans cette affaire, l'État du Mississippi s'oppose à une clinique pratiquant l'avortement. Les tribunaux inférieurs ont jugé jusque-là cette loi anticonstitutionnelle puisqu'elle s'oppose à l'arrêt Roe v. Wade, mais aujourd'hui, avec ce changement, ces tribunaux pourraient bien ne plus avoir d'arguments. Alors, du côté des responsables démocrates, le projet fait bondir. Ils disent que c'est une abomination, l'une des pires décisions, des plus dommageables de l'histoire moderne. C'est ce qu'ils ont estimé dans un communiqué conjoint avec la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer. Il y a aussi eu évidemment des centaines de personnes qui se sont réunies pour protester devant la Cour suprême à Washington, évidemment nombreuses femmes. Et les sondages semblent montrer que la population des États-Unis ne veut pas revenir en arrière. Voilà, tout ce que je peux dire sur ça. Donc, aussi sur les élus démocrates, ils voudraient réagir et inscrire le droit à l'avortement dans la loi, mais évidemment les républicains s'y opposent. Alors maintenant je vais passer à l'Europe, donc il ne faut pas oublier qu'en Europe également, l'avortement est interdit ou extrêmement limité dans plusieurs pays. Et il faut aussi agir au niveau de l'Europe. Vous pouvez agir notamment auprès des eurodéputés pour demander à ce que l'avortement en Europe soit inclus dans la charte des droits fondamentaux. Ça serait bien de faire ça, quoi. Donc en Europe, notamment, on a un gros problème avec Malte, avec la Pologne, avec le Vatican. Et aussi, rappeler pourquoi on n'est pas à l'abri en Europe. Je crois que je vous en avais parlé, mais c'était il y a longtemps, de cette information, mauvaise nouvelle. Du fait que le 18 janvier dernier, le Parlement européen a élu à sa tête la députée maltaise Roberta Metsola, et qu'elle aussi est une femme de 43 ans, une juriste, qui est farouchement opposée au droit à l'avortement, tout comme son pays d'origine, Malte, qui reste l'un des trois pays européens avec Andorre et l'État du Vatican à interdire totalement l'IVG. Même en cas de viol, d'inceste, de maladie du fœtus ou de danger pour la mère. C'est un droit qui se pratique encore dans la clandestinité. Rappelons qu'une femme meurt chaque 9 minutes dans le monde des suites des IVG clandestines. Donc cette nomination de Roberta Metsola est très inquiétante parce qu'un Parlement européen qui prétend défendre les droits des femmes et où siègent plus de 40% des femmes, qui a eu autrefois comme première présidente Simone Veil, aujourd'hui a désigné pour le présider une femme qui ne cache pas son opposition totale à l'avortement. C'est extrêmement choquant. Roberta Metsola est la troisième femme à présider le Parlement européen. Après, il faut rappeler donc les Françaises Simone Veil et Nicole Fontaine. Simone Veil fut la première en 1979. 4 ans après avoir obtenu la de haute lutte en 1975, rappelons-le, à l'Assemblée nationale, la législation de l'avortement en France. Donc comment aujourd'hui une telle situation est possible ? En 2022, nous sommes en pleine régression. Rappelons aussi que le président Macron est complètement contradictoire sur le sujet, puisque d'un côté, il avait proposé d'inscrire le droit à l'avortement justement dans cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en même temps, il avait parlé de l'avortement en disant que c'était quelque chose de traumatisant pour toutes les femmes. En tout cas, je vous disais, ça serait bien donc de pousser pour que ce droit à l'avortement soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais faut pas trop rêver, étant donné que pour cela la charte doit être votée à l'unanimité des États membres et que nous avons donc dans les États membres, comme je viens de vous le dire, Malte, la Pologne, etc., qui ne voteront certainement pas pour ce droit. Voilà. Donc, pour finir sur une note positive quand même, faut rappeler la victoire en France quand même de le 22 février 2022. Ça a été long pour permettre d'allonger les délais légaux de l'IVG en France jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse. Et ceci alignerait enfin notre législation sur celle d'autres pays européens comme l'Espagne et l'Autriche. Donc cette victoire a été pas si facile à obtenir. Il y a eu de longs mois de lutte de la part de féministes sur le sujet. Notamment, je salue Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat, présidente de l'Assemblée des femmes, qui s'est beaucoup battue aussi. Et le gouvernement a fini par céder à cette mobilisation. Il s'est enfin décidé à soutenir le texte, mais donc c'est après vraiment de longs mois, même en fait il aura fallu plus d'un an pour que l'exécutif français, donc l'exécutif du Sénat, se range à l'idée que ce texte est attendu par des milliers de femmes, en particulier par celles qui se trouvent en dehors des délais légaux pour des motifs indépendants de leur volonté. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer sur quelques sujets d'actualité. Enfin, il y en a tellement, donc c'est pas évident. J'arrive pas à parler de tout ce qui se passe, évidemment, vous en doutez. Mais je vais relayer cette tribune, je vais dire, du Front féministe. Qui est un front qui s'est créé et... aussi dont je devrais vous parler, je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous en reparler en fait. Donc je vous expliquerai, en fait c'est un collectif de très nombreuses associations féministes, universalistes, abolitionnistes de la prostitution et de la pornographie, qui s'est créé en fait, et dont je fais partie, auquel j'adhère. Donc ce front féministe en fait, oui c'est... Environ une soixantaine d'associations de 7 pays organisent évidemment des actions. Donc c'est bien de s'associer entre toutes ces associations de tous ces pays. Et une des actions dernières qui a été faite, c'est d'écrire cette tribune par rapport à l'Ukraine. Donc je vais vous la lire. Évidemment, c'est pas juste écrire une tribune, mais ensuite... bien agir au niveau politique, hein, bien sûr, vous en doutez. Donc je vais vous lire la tribune qui s'intitule « Le corps des femmes comme champ de bataille en Ukraine ». La guerre permet l'expression la plus désinhibée de la violence masculine. L'oppression viriliste et destructrice du patriarcat s'y déploie sans frein. Les femmes et les enfants qui ont tant dit de paix subissent des violences machistes individuelles, sont alors traités globalement, en temps de guerre, comme des objets, des marchandises, des déchets. Depuis des années, des opposantes féministes aux dictatures, telles les femmes ukrainiennes, avaient donné l'alerte. Elles voyaient juste. Décidée par un Vladimir Poutine, obsessionnel de la virilité, l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 se poursuit par une guerre de conquête. Comme en Tchétchénie ou en Syrie, l'armée russe massacre des civils. Elle pillonne des villes et bombarde des lieux abritant des femmes et des enfants vulnérables, des maternités, des hôpitaux. Des millions de personnes ont fui les zones d'Ukraine bombardées. 90% sont des femmes et des enfants. La moitié de celles qui ont quitté le pays ont moins de 18 ans. Violence des armes, violence sexuelle. Comme dans toutes les guerres, le corps des femmes est un champ de bataille. Premièrement, le viol comme arme de guerre. De tout temps, les viols systématiques de femmes et d'enfants ont été inséparables des guerres. Depuis les années 1990, avec les conflits dans l'ex-Yougoslavie, le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda et les atrocités commises au Kivu. Ils sont considérés par la justice internationale comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. En Ukraine, comme dans le Donbass, depuis 2014, la cruauté délibérée de soldats russes ou tchétchènes exerçant des sévices sexuels relève d'une stratégie visant à terroriser la population, à la traumatiser durablement, en inscrivant dans sa chair le viol de la nation. C'est une guerre dans la guerre, nourrie par la haine des femmes, assimilant dans la même agression le corps de l'autre et sa terre. Deuxième sujet, location de ventre et trafic d'enfants. Des reportages ont montré des couples éplorés affluant en Ukraine pour récupérer leurs commandes. Une ou un enfant pas encore sorti de l'utérus loué. On présente comme des victimes des personnes qui enfreignent la loi de leur pays et exploitent la détresse financière de femmes amenées à louer leur utérus. La situation d'Ukrainienne, enceinte pour d'autres, est devenue inextricable. L'agence Bioxcom, qui s'appelle, qui a négocié leur mise en relation avec le couple acheteur étranger, leur interdit de quitter le pays, car ce serait une violation de leur contrat. Si les commanditaires financent leur voyage, ces femmes vont accoucher dans un pays dont la loi interdit la location de ventre. Donc là, je vous dis que j'ai parlé notamment de la GPA, des ventres à louer, dans mon dernier podcast avec une interview de Marie-Joseph de Villers de la SIAMS, donc la coalition qui lutte contre la maternité de substitution. Troisièmement, trafic de chair fraîche. Dans les gares et aux postes frontières, des proxénètes, appartenant à des réseaux mafieux ou agissant pour leur propre compte, abusent de la détresse et de l'épuisement de réfugiés fuyant la guerre. Se mêlant aux bénévoles qui offrent aide et solidarité, ils proposent transport, hébergement, emploi à de jeunes femmes démunies qui sont victimes de raquettes, d'enlèvements, de travail forcé, de violences sexuelles, de traite d'êtres humains à des fins de prostitution ou de pornographie. Ces criminels s'alignent sur la demande. Sur les sites de rencontres et les sites pornographiques, les recherches ayant pour mot que les femmes ukrainiennes se sont multipliées. Quatrièmement, accueil dans les pays voisins. Ayant quitté précipitamment leur foyer, des millions de femmes et d'enfants sont dépourvus de tout et leur survie est entravée par des traumatismes. Des bénévoles les aident matériellement et psychologiquement. D'autres femmes, prises en otage par la guerre, ne peuvent quitter le pays. Elles survivent dans des caves, sont restées dans des fermes, s'occupent de personnes âgées, de malades, d'enfants. Des Ukrainiennes enceintes à la suite de viols ne peuvent avorter en Pologne, où la loi l'interdit. Même si on les y autorisait, le personnel compétent manque. Depuis longtemps, des féministes demandent que soit inscrit dans le droit européen, donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le droit à l'avortement de toutes les femmes. C'est aux femmes, et aux femmes seulement, de décider si elles veulent poursuivre une grossesse. Solidarité féminine internationale. Nous, féministes universalistes, affirmons notre solidarité avec le peuple ukrainien victime de l'agression russe et dénonçons les violences spécifiques dont sont victimes les femmes et les enfants. Nous saluons le courage des résistantes et résistants ukrainiennes et aussi des Russes qui s'opposent à la dictature de Vladimir Poutine et à la guerre qu'ils mènent contre l'Ukraine. Nous demandons que tous les moyens diplomatiques soient mis en œuvre pour que cesse cette guerre et ces atrocités. Nous demandons à la justice internationale de punir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en Ukraine. Voilà, donc c'est la fin de cette tribune du Front féministe. Donc, au début de cette tribune, ce Front féministe rappelait donc que les femmes ukrainiennes avaient donné l'alerte et qu'elles voyaient juste. Je voudrais juste compléter sur ça. Eh bien, effectivement, en 2019, notamment l'Université féministe de l'Assemblée des femmes, qui était consacrée aux masculinistes et antiféministes, avait invité Ina Shevchenko, militante féministe ukrainienne, figure des femmes et de la résistance à la misogynie. Voici comment elle nous alertait de manière visionnaire sur la montée des dictateurs et des extrêmes droites en Europe. Elle disait « Au début de notre combat, nous avons dû faire face aux antiféministes et masculinistes dans le pouvoir politique. Je parle notamment des leaders politiques dans ces pays-là. Nous avons face aux dictateurs comme Poutine, Yanukovych en Ukraine et Loubachenko en Biélorussie. Notre but était d'aller devant eux le plus près possible pour détruire ce mythe de leur puissance et de leur invisibilité. Nous avons fait face à ces dictateurs avec nos corps nus et nos slogans politiques, nos demandes politiques parce que nous avons identifié au début de notre activité en Ukraine que tous les systèmes politiques dictatoriaux sont antiféministes et antifemmes. » Voilà, donc si vous voulez retrouver cette intervention qu'elle avait faite, je mettrai le lien donc à l'Assemblée des femmes qu'elle avait faite en 2019. Voilà. Donc je rappelle que voilà, les femmes luttent contre la pornoprostitution, luttent contre l'étocratie, luttent contre le patriarcat religieux en général, et voilà, contre les dictatures, etc. Donc, je vais aussi, alors du coup, vu que j'ai parlé du front féministe, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Eh bien, en fait, il a été créé au départ par les responsables, sont Marie-Noël Bas, Gérard Biard et Florence Moreno. Et la première action du front à ce moment-là date du 8 mars 2022 et avait consisté à soutenir la réaction critique de l'Amicale d'Uni à une campagne officielle française contre la prostitution des mineurs qui oubliait de mettre l'accent sur les vrais responsables, c'est-à-dire les clients prostitueurs. Comme d'habitude, évidemment, on ne parle que des femmes comme si c'était leur responsabilité. Alors que elles sont victimes du système prostitueur et le problème, ce sont les clients prostitueurs sur lesquels il faut mettre la lumière. Et ce sont eux qui alimentent l'exploitation et la violence de la prostitution. Donc en fait, ce front féministe a été créé par des féministes abolitionnistes universalistes qui se sentent censurées, agressées par rapport à leur position, donc leur position abolitionniste de la pornoprostitution, leur position de critique du genre et notamment de l'idéologie de l'identité de genre, l'idéologie transgenre, l'idéologie des transactivistes. Donc, il y a un manifeste qui s'appelle « Liberté, égalité, féminisme ». Je l'avais déjà lu dans une précédente émission. Mais bon, puisque j'en reparle, je vais vous faire un petit résumé donc, du manifeste qui donne les valeurs en fait, de ce fonds féministe. Donc, en fait, c'est un manifeste qui affirme le droit des femmes au respect de leur corps sexué, qui a 10 principes, qui réagit par rapport à la banalisation croissante de l'exploitation sexuelle et reproductive des femmes et des filles, qui réagit par rapport à l'effacement du mot « femme » et du concept de sexe par des transactivistes qui agressent et menacent des féministes et des lesbiennes. Donc on dénonce l'effacement du sexe au profit du genre, on dénonce la marchandisation des femmes par la pornoprostitution et la location d'utérus, donc la GPA. On dénonce la culture du viol inhérente au système patriarcal dont le pilier est la prostitution. On dénonce le contrôle du corps et de l'apparence des femmes. Donc il y a 10 principes affirmés. Premier principe, la prostitution est une exploitation sexuelle machiste. Il n'y a pas de droit à la sexualité. Dans de nombreux pays, les clients prostitueurs sont selon la loi coupables d'un délit. Une personne n'est ni une chose, ni une marchandise. Les réseaux mafieux, les proxénètes qui organisent la traite d'êtres humains et exploitent la vulnérabilité de femmes et de filles commettent des crimes. Le consentement à un acte sexuel venant d'une femme exploitée lui est extorqué par la contrainte. La contrainte économique, rappelons quand même que 7 pauvres sur 10 sont des femmes, donc que la domination économique patriarcale justifierait l'achat sexuel des femmes. Ben oui, c'est facile, mais non, on n'est pas d'accord. Donc, l'argent n'efface pas la violence, l'argent n'efface pas le viol. Les personnes en situation de handicap ne veulent pas acheter des actes sexuels non plus, puisqu'on nous propose l'assistanat sexuel qui est en fait de la prostitution, donc... Les personnes, d'ailleurs, dans ce fonds féministe, il y a une association FDFA, Femmes pour l'agir, qui sont des femmes handicapées, qui réagissent par rapport à ça, qui donc ne veulent pas de ça, donc ne veulent pas, les personnes en situation de handicap ne veulent pas acheter des actes sexuels, même masqués sous l'appellation d'assistante sexuelle, mais vivre dans une société plus ouverte et accessible, ce qui favorisera leur vie sexuelle et affective. Deuxième principe, la pornographie normalise des violences sexuelles infligées à des femmes et à des enfants. Elle met en scène, propage massivement des images, en fait c'est pas des images, ce sont des vrais viols, hein, de prostitution. Elle relève de la culture du viol et conforte l'ordre machiste. Troisième principe, la gestation pour autrui prétendument éthique est un leurre et l'allocation d'utérus est une violence. Un désir ne crée pas un droit, il n'y a pas de droit à l'enfant. Un être humain ne peut faire l'objet d'un commerce, c'est un principe fondamental de droit. Voilà, donc du coup je suis partie à vous lire tous les principes, je vais continuer. Donc quatrièmement, le viol a pour unique responsable le violeur, la honte doit peser non sur la victime mais sur le coupable. Cinquièmement, les violences du conjoint ne sont pas de l'amour, l'emprise masculine dans le couple hétérosexuel relève de la possessivité de la domination. Sixièmement, le respect du corps et de son intégrité est un droit, les mutilations sexuelles sont des crimes. Septièmement, le voile islamique est une oppression sexiste. En Iran, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, les femmes qui refusent de le porter sont emprisonnées, harcelées, fouettées, tuées. Et en Occident, les femmes subissent des pressions de leur entourage et de la religion pour le porter. D'autres le portent volontairement, ce qui n'en modifie pas le sens discriminatoire. Cela ne justifie évidemment pas les violences envers les femmes voilées. Huitièmement, donc par rapport aux droits des femmes qui sont fondés sur le sexe, nous avons trois principes. Huitièmement, le sexe relève de la nature et le genre de la culture. Neuvièmement, les femmes trans qui sont des hommes au sens biologique et ont été le plus souvent socialisées en hommes s'identifient comme des femmes. Dixièmement, la mixité femmes-hommes est notre modèle de société. Néanmoins, pour se protéger de la violence masculine, les femmes ont droit à des espaces non mixtes tels que toilettes, vestiaires, prisons ou refuges. Quant au sport, admettre des femmes trans dans des compétitions féminines est inéquitable pour les femmes. Des femmes et des filles cumulent plusieurs oppressions dues à leur origine ethnique, leur couleur de peau, leur âge, leur apparence, leur lesbianisme, leur pauvreté, leur handicap, etc. Leur point commun est bien d'être du sexe féminin et non pas d'être d'un genre ressenti qu'on aurait dans la tête. C'est d'abord en tant que telle, depuis toujours, que nous sommes opprimés. Donc voilà, du coup je vais poursuivre sur, je vous ai dit qu'à l'origine de ce front féministe, il y a Florence Moreno. Donc elle a été interviewée par Charlie Hebdo par rapport justement à la nécessité d'avoir créé ce front féministe. Du coup, je vais juste des extraits de ce qu'elle en dit. Elle répond donc, oui, je vous ai dit, en fait ça doit être Lord aussi, je pense, la journaliste qui l'a interviewée. C'est la journaliste qui s'occupe le plus de féminisme au sein de Charlie Hebdo. Donc voilà, ce qu'elle dit, c'est qu'il était nécessaire effectivement d'organiser la résistance en publiant le manifeste Liberté, Égalité, Féminisme. Donc il faut rappeler que Florence Moreno, c'est une historienne féministe engagée depuis 1971. Elle est aussi la cofondatrice des Chiennes de Garde, puis du réseau Encore Féministe et de Zéro Macho, donc qui est l'association des hommes abolitionnistes de la prostitution. Donc en fait l'idée c'était d'affirmer les positions, donc celles dont je viens de vous lire dans le manifeste, et de s'opposer aux pro-voiles, aux pro-prostitution et aux transactivistes, aux pro-patriarcat en fait. Donc elle explique, Florence Moreno explique que la situation est grave et elle estime qu'il faut entrer en résistance, je suis d'accord avec elle. Le 7 mars 2021, elle rappelle qu'elle a été elle-même agressée lors d'un rassemblement à Paris, évidemment pour, vous connaissez donc le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, et bien en 2021 elle avait été agressée par des jeunes activistes antifa, soi-disant, qui l'ont traitée de facho, de putophobe, de transphobe. Et elle a été agressée en même temps, enfin avec toutes les survivantes de la prostitution qui luttent pour l'abolition de la prostitution. Et toutes ces femmes ont été bombardées avec des œufs. Donc c'est une violence physique qui faisait suite à des années de menaces dirigées contre toutes celles qui, comme elle et moi en fait, luttent contre la prostitution ou estiment que le transactivisme nuit à la cause féministe. Ces jeunes venaient casser de la bolo abolitionniste. Voilà, donc en fait, ce qu'elle explique, eh bien, c'est que du coup, ces associations donc sont internationales. Celles qui ont rejoint le Front féministe font partie de cinq féministes. La fragmentation du mouvement féministe est effectivement la même un peu partout, les mêmes problèmes. Le féminisme est un mouvement révolutionnaire, internationaliste, il n'y a pas de frontières. Et il est vrai que cela fait des années que la situation se détériore dans de nombreux pays. Donc en fait, on est entre plusieurs attaques. D'un côté, les attaques de l'extrême droite, des religieux, et celles des extrémistes qui se veulent ultra-progressistes, comme les transactivistes, qui en fait, d'après moi, je pense ont un lien aussi avec le religieux. Donc les temps sont dangereux pour les femmes. Voilà, on est mis en garde par nos amies québécoises et espagnoles qui nous disent attention, la violence des transactivistes va arriver chez vous. Donc que les choses soient claires, ce ne sont pas les trans qui sont en cause ici, mais les transactivistes. Souvent, ce sont des jeunes militants qui épousent ce combat qui leur semble être transgressif, mais leur extrémisme sape des années de féminisme. C'est un danger pour le féminisme et au-delà pour les droits des femmes. Leurs attaques sont massives, mais heureusement, la résistance s'organise. D'où l'idée de s'unir sur des principes, de sortir du bois pour s'affirmer. Donc en fait, la journaliste Lord aussi, je pense, lui demande qu'y a-t-il derrière cette guerre des mots, voire de leur effacement. Donc Florence Moreno répond, eh bien en fait, derrière la guerre des mots, c'est la guerre des idées, évidemment. Tout simplement, elle rappelle les attaques contre J.K. Rowling, l'autrice de la série d'Harry Potter, qui avait osé ironiser sur l'expression les personnes qui ont leurs règles, et cela a été le déclencheur. Certains voudraient effacer le mot femme et le concept de sexe, et malheureusement, ils y parviennent parfois. Par exemple, le planning familial qui a évolué vers un soutien à la prostitution et au transactivisme. Le planning familial valide l'idée absurde que le sexe serait assigné à la naissance, alors que le sexe est constaté et que c'est un fait objectif. Donc, le féminisme universaliste s'oppose au féminisme dit intersectionnel, mais en fait, ça veut rien dire. Donc, parce que intersectionnel, c'est un nom qui est à la mode, mais le féminisme universaliste pratique depuis toujours l'intersectionnalité des luttes. Donc, nous, ce qu'on dénonce, c'est l'oppression de sexe et de classe. Nous défendons les femmes opprimées, pauvres, victimes de racisme, d'homophobie, d'âgisme, etc. Mais la différence, c'est que nos batailles à nous sont politiques. Ce n'est pas un problème de mal-être individuel que l'on voudrait imposer à tous. Voilà. Donc, je vais faire une petite pause musicale. Avant de passer à d'autres sujets. Voilà.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je vous ai parlé donc de la situation en Ukraine. Donc là, je vais vous parler de la situation dont on parle plus assez et qu'il ne faut pas oublier, la situation des femmes en Afghanistan. Sauf que, ouais, du coup, je trouve plus ce que je voulais dire. Ah mince, pardon, je retrouve plus mon communiqué. Mince, ouais, je voulais vous retrouver l'association. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Excusez-moi, j'ai un petit blanc. Voilà. En fait, il s'agit du communiqué de l'association NEGAR qui s'occupe de la défense des femmes en Afghanistan. Et récemment, sur les réseaux sociaux, NEGAR a posté une image, l'image des femmes sous le burqa obligatoire, avec écrit dessous 100% des femmes portées disparues en Afghanistan. Donc, il y a Shukriya Haidar, en fait, qui a pu parler lors d'une conférence projection organisée par l'Assemblée des femmes à Nice le 16 mai 2022. Et aussi, je ne sais pas si vous avez pu y aller, à Marseille, c'était le 27 mai dernier, puisque nous avons Geneviève Courreau, qui fait partie aussi de cette association NEGAR et qui est à Marseille, et donc elle avait organisé cela. Donc je vais vous rapporter les propos de Shukriya Haidar qui ont été recueillis par Laurence Dionigi du magazine 50-50 au moment de cette conférence à Nice le 16 mai 2022. Donc NEGAR soutient aux femmes afghanes. NEGAR signifie en afghan bien-aimée et élue. Il y a d'autres associations, Afghanistan Libre, Amitié Mère, Afghane, Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. C'est l'appel au secours lancé par la réfugiée politique Shukriya Haidar, la présidente de l'association NEGAR, à la communauté internationale pour faire pression auprès des talibans afin de les contraindre à négocier et à respecter l'égalité femmes-hommes inscrite dans la constitution afghane. Créée en 1996, NEGAR a développé des programmes d'éducation avec principalement la construction de collèges et lycées, de complexes sportifs à destination des filles ou encore la remise à niveau des professeurs privés d'enseignement sous le premier régime des talibans entre 1996 et 2001 où les filles avaient interdiction de fréquenter l'école. Aujourd'hui, les talibans se sont installés dans ces mêmes établissements ou les ont purement et simplement détruits. Shukriya Haidar se bat depuis l'âge de 23 ans pour les droits des Afghanes. Elle a commencé sa quête pour l'égalité en 1980. À 63 ans, ce petit bout de femme continue, plus déterminée que jamais, son combat, car on touche le fond de l'océan. En effet, pendant que le monde entier a les yeux rivés sur la guerre en Ukraine, d'autres terroristes avancent leurs pions contre les droits humains dans un pays en plein déroute économique. Les Afghans, et plus particulièrement les Afghanes, se voient dépossédés petit à petit de leur liberté fondamentale dans l'indifférence internationale la plus totale. Depuis qu'en août dernier, les talibans ont pris le pouvoir avec le soutien du Pakistan et en amont avec celui des USA et de l'ONU, des mesures ont été prises à l'encontre des femmes après avoir au préalable arraché les affiches publicitaires de leurs visages collés sur les murs ou décapité la tête de mannequin en vitrine. Une longue liste d'interdictions. L'enseignement n'est plus accessible aux filles de plus de 12 ans. Les femmes ont interdiction de travailler, de conduire, de se rendre dans des lieux culturels, de sortir seules. Et dernier décret en date, elles doivent s'invisibiliser sous un voile intégral afin de disparaître du regard des hommes. Pour l'instant, les talibans leur demandent de le porter. Mais pour l'instant, car à terme, si une femme ne disparaît pas du champ de vision des hommes, son propriétaire, en l'occurrence le mari ou le père, risque dans un premier temps un avertissement, puis la menace de 3 jours de prison, et enfin la poursuite en justice si leur esclave continue de désobéir au chef de famille. Un moyen indirect et vicieux de répression auprès des maris ou des pères qui ne feraient pas respecter cette mesure au sein de leur famille. Dès l'avènement de ces terroristes, il y a 9 mois, certaines femmes ont réussi à fuir l'Afghanistan et quelques-unes ont préféré se suicider afin d'éviter les mariages forcés.
Des familles ont vendu leurs filles pour s'économiser une bouche à nourrir dans un pays où la famine est de retour et où la vie d'une femme ne vaut rien. Rappelez-vous cette fillette de 9 ans, cédée pour 1900 euros par son père en novembre dernier à son futur mari, un pédophile de 55 ans, et qui avait ému la sphère internationale. Ce trafic d'enfants et de femmes a repris de plus belle au même titre que le trafic de drogue et d'organes. Un marché juteux qui rapporte beaucoup d'argent. Cependant, des courageuses combattent et crient haut et fort leur désaccord sur la mainmise de leur liberté, difficilement acquise les décennies précédentes. Elles ont 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 80 ans, et elles manifestent à visage découvert contre le voile intégral, hébergent les femmes violentées, enseignent aux filles de plus de 12 ans dans des écoles clandestines, utilisent les réseaux sociaux pour dénoncer leur quotidien et manifester leurs craintes. Pour chacun de leurs actes, elles risquent des représailles. Heureusement que le pays est grand et qu'il est impossible pour l'armée des talibans de sanctionner toutes ces résistances. Toutes ces résistantes. Néanmoins, à chaque action, elles risquent la prison et la torture, voire la mort. C'est ce que rappelle donc Shukriya Haidar, qui est présidente de l'association Negar. Elle-même a échappé à plusieurs reprises lors de ses nombreux séjours dans son pays à la prison. Ces femmes sont en danger, il faut impérativement les aider en ne reconnaissant pas le régime taliban et en mettant la pression sur la communauté internationale pour qu'elles réagissent. À la question « Mais pourquoi les talibans haïssent-ils autant les femmes ?», la combattante aux cheveux courts et aux yeux noirs explique « Pour eux, gagner contre la culture occidentale, c'est retirer le droit des femmes. Également, ils ne veulent pas d'une force intellectuelle, leur objectif étant de maintenir l'Afghanistan dans la misère, dans toute l'acceptation du terme. » Retirer les droits aux femmes, c'est aussi soumettre les hommes à la soi-disant culture afghane. Les femmes sont maintenues dans la pauvreté, car en les retirant du marché du travail, elles ne peuvent plus exercer d'activité et donc apporter un revenu à la famille ou s'émanciper financièrement. Dans la région du Panchi, où il existe une véritable poche de résistance, les talibans massacrent aussi bien les hommes que les femmes. C'est un génocide et tout le monde ferme les yeux. Il y a une volonté de déstabiliser cette région de l'Asie centrale. En ce moment, des soldats sont formés pour aller se faire exploser. La communauté internationale doit réagir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, comment faire pour aider ce peuple abandonné aux mains de ces terroristes ? Shukriya Haidar, en lien avec de nombreuses associations féministes internationales, proposera, comme il y a 25 ans sous le premier régime des talibans, de récolter, courant juillet prochain, plus de 3 millions de signatures sous la forme d'une pétition afin de faire pression auprès des instances internationales et d'obliger les talibans à respecter les droits fondamentaux des femmes inscrits dans la constitution afghane depuis 2004. En attendant, et pour sauver des vies, il s'agit de parler d'elles et comme disent les résistantes afghanes, notre voix est notre arme. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus ou agir, vous pouvez trouver l'association Negar partout sur internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc le temps passe vite en fait, et du coup j'avais comme d'habitude prévu beaucoup d'autres choses dont j'aurais pas le temps, donc je vais passer à ce que j'ai prévu quand même de faire et j'espère avoir le temps. Donc en fait je vais vous reparler donc d'une grande féministe, une grande pionnière dans son pays, Ibtissam Betty Lashgar. Elle était venue à Marseille pour une émission avec moi, donc elle avait présenté un petit peu tout ce qu'elle fait, mais en fait, le 8 mars dernier, je suis allée la voir au Maroc et du coup, j'ai pu recueillir une interview plus précise, en fait, voilà, sur les sujets qui m'intéressent. Donc, je vais vous rappeler qui elle est. Donc, avant de vous faire passer cette interview, je vais quand même vous rappeler évidemment qui elle est puisque vous n'avez pas forcément suivi le podcast en question. Donc, c'est une psychologue clinicienne. Elle est militante féministe, universaliste et laïque. Elle est également militante abolitionniste. Elle est membre du collectif Abolition Porno Prostitution. Au Maroc, elle a fondé le mouvement alternatif pour les libertés individuelles. Et donc, ce mouvement est un mouvement de désobéissance civile, universaliste, féministe et laïque. Donc elle agit sur les libertés individuelles, la liberté d'expression, liberté de circulation, liberté de conscience, laïcité, droits des femmes, droits sexuels et reproductifs et aussi abolition de la peine de mort. Elle a été très remarquée en 2009 avec la première action de protestation et de combat pour la liberté de conscience. Très courageux, ces actions ont fait scandale au Maroc et ont permis d'ouvrir le débat sur les libertés individuelles dans ce pays. Betty défend aussi ouvertement la communauté LGBT et la légalisation de l'avortement. Elle n'hésite pas à prendre des positions publiques courageuses sur des sujets sensibles ou tabous dans une société conservatrice où l'islam est religion d'État, d'où intimidation, menaces, arrestation des militants. Elle a aussi initié au Maroc la Journée internationale contre l'homophobie, IDAO. Donc avant de passer à l'interview, je vais vous lire des extraits, une synthèse de ce qu'elle a dit sur les gros sujets et que j'ai recueilli grâce à différentes interviews, ressources, notamment une interview faite par Francine Sporanda qui a un site qui s'appelle Révolution Féministe. Donc par rapport à l'universalisme, voilà ce qu'elle dit, ce que dit Betty. Donc, je crois pleinement en une universalité des droits qui ne saurait reconnaître de couleur de peau, de frontières, de religion, de sexe ou de classe sociale. Et cela vaut pour les droits de femmes. Un féminisme détourné de ces principes universalistes ne saurait en être un. Le relativisme culturel fait reculer la lutte des femmes de plusieurs millénaires dans certaines contrées. Toute personne, les femmes en particulier, a droit à son libre arbitre. Et je ne saurais m'incliner face à des accommodements religieux qui nuisent à l'émancipation des femmes. Les revendications des femmes sont globalement les mêmes partout dans le monde. L'émancipation des femmes au-delà de l'égalité. Les pays où les droits des femmes sont les plus bafoués sont ceux où le système patriarcal est le plus présent. Et à cet égard, à des degrés divers, toutes les femmes du monde sont touchées. Je rejette cette dichotomie entre pays du Nord et du Sud, ou entre Orient et Occident, qu'on constate trop souvent. Les droits sont les mêmes pour toutes, ou du moins devraient l'être. Je ne peux accepter des arguments du style « oui, mais la culture n'est pas la même, mais c'est un pays musulman, mais ce sont leurs traditions ». Que certaines femmes subissent des discriminations multiples qui se combinent ne fait aucun doute. Mais mettre en avant des catégories d'oppression fondées sur la classe sociale ou la couleur de peau, c'est nier la lutte commune contre la domination masculine et minimiser les violences dont pourraient être victimes ce que certaines intersectionnelles nomment les femmes bourgeoises blanches. C'est un féminisme contre-productif. Elles sont sur un terrain glissant, dans le sens où souvent leurs discours et leurs justifications rejoignent les propos des frères musulmans ou de certaines personnalités rétrogrades. Ça me désole de voir que certaines féministes, sous couvert de relativisme culturel, m'accusent d'islamophobie ou autre, au sujet de la polygamie, de l'excision, etc. Et qui finalement font le jeu du patriarcat, qui mettent en pratique la stratégie du diviser pour mieux régner entre nous. Or, on ne peut pas diviser les opprimés. Donc à propos de la laïcité, donc c'est très important, elle se bat donc pour la liberté de conscience, la liberté de culte, et elle se bat contre l'inquisition socio-religieuse, notamment au Maroc, où elle explique qu'il y a une hypocrisie sociale. En fait, elle avait été connue par son action l'action où en fait elle avait organisé un pique-nique pendant le Ramadan, une action ramanadesque qui a fait connaître le mouvement Mali. En tant que laïque convaincue, elle dit « Je pense que la religion doit rester dans la sphère privée et que le religieux doit être séparé du politique. Les religions participent à l'asservissement des femmes, à leur soumission, à leur humiliation. Elles ne peuvent pas participer à leur émancipation. Les religions sont misogynes par essence et l'islam n'échappe pas à la règle. » Comment peut-on enrôler au service du féminisme les religions en général et l'islam en particulier, dernière religion monothéiste, qui servent de légitimation au système phallocrate et à la suprématie masculine. Donc récemment aussi sur Twitter, elle est très active et pendant le Ramadan au Maroc, eh bien elle se bat en fait contre l'article 222 marocain. Je vais vous le citer, qui dit donc cet article dit toute personne notoirement connue pour son appartenance à la religion musulmane et qui rompt ostensiblement le jeûne en public pendant la journée du Ramadan sans motif admis par cette religion est passible de 6 mois d'emprisonnement. Donc en fait ça n'a pas raté. Donc pendant le dernier Ramadan, il y a eu un coup de filet avec arrestation d'une trentaine de personnes dans un café à Casablanca, des personnes qui suivent, selon cet article, sont considérées musulmanes puisque en fait tu l'es de facto puisque tu n'es musulman. Donc ces personnes ont été relâchées, mais elles seront poursuivies. Donc elle dit « On aimerait autant de rapidité et d'efficacité pour l'arrestation de violeurs, pédocriminels et autres agresseurs en lieu et place de ce fascisme religieux d'État. » Il aurait été utile de préciser de citer cet article 222 et elle dit qu'en fait, elle ne défend pas le droit de ne pas jeûner, mais tout simplement le droit de la liberté de conscience, donc de croire ou de ne pas croire. Et elle explique que la liberté de conscience n'existe évidemment pas au Maroc et que c'est sur cette base et celle de la laïcité que son mouvement a été créé en 2009. Et que le libre exercice des cultes n'a rien, enfin, n'est pas la liberté de conscience. Et voilà, la liberté de conscience, c'est aussi évidemment de ne pas croire. Donc en fait, depuis 2009, je vous ai dit, son mouvement Mali était le seul à condamner l'article liberticide 222 du Code pénal. Et il faut continuer cette lutte pour son abrogation. Voilà, elle dit « Nous continuerons à dénoncer la dictature religieuse, à défendre la liberté de conscience. C'est valable pour toute idéologie, qu'elle soit religieuse, philosophique ou politique. Il n'y a pas d'idéologie sacrée. Épargnez-nous tous ces mots se terminant par phobie. » Voilà, elle fait aussi un travail de veille, notamment par rapport à toutes les personnes persécutées dans le monde parce qu'elles auraient blasphémé. Et donc, grâce à elle, j'ai pu suivre un peu ce qui se passe, puisque bien ce travail, il n'y a personne d'autre qui le fait ou qui partage. Hein. Donc, notamment, voilà, les deux dernières, elle a relayé Anika Atik, une Pakistanaise, c'était le 28 janvier 2022, une Pakistanaise de 26 ans qui a été arrêtée en mai 2020 et inculpée pour avoir partagé sur WhatsApp un contenu jugé blasphématoire, dont des caricatures du prophète. Elle a été condamnée à être pendue par le cou. Et c'est un homme qui l'a piégé, il s'appelle Asnot Farouk, et elle dit cet homme qui l'a piégé, en fait, l'a piégé parce qu'elle avait rejeté ses avances. Il y a aussi une femme au Nigeria, Déborah Samuel, jeune étudiante chrétienne, c'était le 13 mai 22, donc c'est récent. Elle a été lapidée, brûlée par un groupe d'étudiants musulmans à la lecture d'un message sur un groupe WhatsApp qu'ils ont jugé offensant à l'encontre du prophète Mahomet. Et une foule d'hommes a fouetté son corps tout en criant des insultes avant d'empiler des pneus usés sur son corps et d'y mettre le feu. Voilà, donc je vais vous laisser écouter l'interview que je lui ai faite. Donc à l'occasion, je vous disais, du 8 mars dernier.
Alors je voulais changer de sujet, parler du collectif dont tu fais partie, Ex-Muslims, parce que tu m'en as parlé, ça m'avait interpellée, que tu m'expliques que vous avez, à Amsterdam, quand on vous a accusé donc en Occident d'être des islamophobes. Donc j'aimerais vraiment que tu reviennes pour expliquer aussi aux gens qu'est-ce que c'est, par exemple, la charia, qu'est-ce que c'est, voilà, ces termes-là, voilà, j'aimerais bien.
Alors c'est pas un collectif, c'est une coalition internationale.
D'accord, voilà.
De plusieurs personnes ex-muslimes. Mmh. Ex-muslim est vraiment une terminologie politique, parce qu'il y a des personnes qui étaient donc vraiment musulmanes, pratiquantes, croyantes, etc. Mmh. Et des personnes comme moi, qui venons d'une éducation, ou dirais-je entre guillemets, d'une culture, d'une famille, d'une société, dont voilà, l'islam est la religion, etc. Donc, c'est-à-dire que j'ai baigné là-dedans, que je maîtrise, que je suis victime de lois et de pratiques de cette religion. Donc, je suis concernée, même si je n'ai jamais été pratiquante comme d'autres auraient pu l'être au sein de la coalition. Oui, alors nous organisons... En fait, nous ne sommes pas très médiatisés, parce qu'encore une fois... ça me rappelle un petit peu justement les survivants de la prostitution. Et c'est que voilà, on donne la parole plutôt à des personnes qui vont dire maintenant l'islam c'est beau, c'est pas ça, etc. etc. Je parle bien d'islam en tant qu'idéologie, hein, pour que les personnes ne se disent pas j'attaque des personnes musulmanes. Non, pour moi j'attaque toutes les religions et je l'assume. Donc là on est en train de parler d'islam, mais je peux dire la même chose du judaïsme et du christianisme. Particulièrement le catholicisme d'ailleurs. Donc là, je parle bien d'islam. Donc on donne la parole plutôt à des personnes qui vont, entre guillemets, donc défendre l'islam et voilà, faire passer des messages pour dire que voilà, cette idéologie finalement n'est pas. Voilà, il y a de l'amour, il y a de la paix, qu'il n'y a pas de misogynie, blablabla, etc. Et quand, un peu comme quand on parle d'autres choses, hein, d'autres systèmes ou d'autres idéologies, hein, que ce soit le transactivisme ou la prostitution, où donc on entend beaucoup ces messages de non, c'est pas comme ça, c'est. Voilà. Voilà. Et donc, les personnes qui sont passées par là, qui sont concernées, qui disent bah non, en fait, voilà notre message, on peut ne pas être d'accord ou pas d'accord, encore une fois, ce n'est pas mon sujet, c'est juste nous laisser la parole. si on veut être dans des débats d'idées et dans des débats démocratiques, etc., pourquoi silencier à chaque fois des personnes qui disent finalement, qui sont finalement, leur discours serait supposément, parce que j'ai bien supposément, hein, minoritaire. Parce qu'en vrai, pas minoritaire. En vrai, c'est juste qu'on ne peut pas parler, comme les survivants de la prostitution ne parlent pas, comme les personnes qui détransitionnent ne parlent pas. C'est parce que voilà, en face, il y a tellement, on donne tellement la parole quand on va, puis c'est tellement nombreux, solidaires, etc. Les gens, enfin, les individus qui adhèrent à cela. Donc, du coup, voilà. Donc, en fait, nous essayons d'exister. Il y en a entre nous qui ont pas mal de followers, comme on dit, sur les réseaux. Donc, il y a quand même des messages qui passent. Il y a certains médias qui nous donnent la parole, mais c'est insuffisant. Parce que, de toute façon, en général, les médias qui voudraient nous donner la parole, effectivement, ce seraient des médias d'extrême droite pour instrumentaliser nos luttes à des fins racistes, etc. Questions migratoires, on en passe. Donc, du coup, c'est vrai que notre parole n'est pas très entendue, mais on est très
organisé. Parce qu'à gauche, il n'y a personne pour vous entendre, malheureusement, c'est ça qui
est... C'est comme la question de la porno-prostitution. C'est exactement comme la question de la porno-prostitution ou du transactivisme. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, il veut bien mettre la question du transactivisme dans la Constitution française. Donc, donc c'est un peu pareil. C'est ça, c'est suivre des vagues parce que ça fait bien. Voilà, c'est suivre, vous savez, c'est la bien-pensance.
Et donc, en tout cas, les revendications de cette coalition, c'est quoi de pouvoir critiquer une religion,
notamment l'islam. De pouvoir critiquer la plupart d'entre nous, nous le faisons déjà. C'est surtout de mettre en avant qu'il y a des personnes qui sont persécutées, voire emprisonnées, condamnées, etc., voire condamnées à mort
dans certains pays.
Pas forcément, hein. Faut savoir qu'il y a des personnes musulmanes qui critiquent, hein, et qu'on les considère comme des apostates. C'est différent. Voilà. Okay. Donc oui, là, dans la coalition, nous sommes exclusifs, mais il y a des personnes musulmanes qui sont critiques, et on les qualifie de mécréantes parce qu'on n'accepte pas la critique de la religion. Ouais. Mais voilà, donc nous accompagnons des personnes apostates qui sont victimes de discrimination, de persécution, qui sont victimes des lois et des pratiques liberticides. Souvent dans des pays où l'islam est religion d'État, mais pas que. Ça peut être dans d'autres pays où l'islam n'est pas forcément religion d'État, mais c'est parce que, voilà, elles viennent d'une famille conservatrice religieuse, parce que l'entourage peut être choqué, parce que, voilà, bon. Donc, il y a à des degrés divers, il y a donc des discriminations, des violences, etc. Donc, on essaye vraiment de faire passer ces messages-là et de mettre en avant et en lumière les lois et les pratiques qui existent. Voilà, comme au Maroc, il n'y a pas de peine de mort et on ne va pas en prison quand on est d'ailleurs apostat et apostate, mais dans d'autres pays, on va en prison et on est condamné à mort, et voire exécuté. Donc bon, quand même. Et puis sinon, c'est d'autres articles.
D'accord.
Article 222, c'est quand on rompt le jeûne en public pendant Ramadan.
Je peux poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on appelle la charia et quelles sont les conséquences de la charia sur les droits des femmes? Voilà.
La charia veut juste dire, c'est un mot en arabe qui veut dire loi islamique.
Ouais.
Donc, tout simplement.
Donc, dès qu'on est dans un pays où la religion d'État est l'islam, il y a...
Les lois sont religieuses parce qu'il n'existe pas d'État civil.
Tout à fait.
Il n'y a pas d'État civil. Voilà. L'État est religieux.
D'accord. Donc, au Maroc, par exemple, la charia,
les lois sont fondées sur l'islam. Donc, il n'y a pas d'État civil. Ce qu'on appelle État civil, c'est des lois qui sont fondées sur le respect des droits humains.
Beaucoup de personnes croient que la charia, c'est en Afghanistan ou dans les pays...
Non, c'est pas confondre. Ouais. La charia existe dans tous les pays, donc elle existe en Afghanistan.
Ils croient que la charia, c'est que dans certains pays.
Les gens confondent... ne confondent pas d'ailleurs.
Ouais.
C'est juste que... c'est vrai que dans l'opinion publique, on pense que la charia, ça voudrait dire lapidation ou couper les mains aux voleurs. Voilà. Ça, effectivement, ça existe dans la charia. Ce n'est pas appliqué au Maroc. C'est appliqué dans d'autres pays.
Mais
elle existe. Elle pourrait être appliquée au Maroc. Ce serait pas...
Donc la charia, elle n'est pas forcément appliquée. Tout n'est pas appliqué.
Mais par rapport aux droits humains, donc il n'existe pas Du coup, en tout cas au non-respect des droits humains, c'est la même partout. Donc si on parle d'inégalité en héritage, c'est dans tous les pays, c'est pareil. Si on parle du fait qu'une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, c'est pareil, tout, etc., etc. Donc la polygamie, voilà, elle existe au Maroc. Donc l'ancien ministre des droits humains, qui était ministre de la justice juste avant, est bigame, enfin voilà, ministre quand même. L'adoption n'existe pas en islam. Voilà, c'est interdit. Donc, c'est une espèce de tutelle. Et donc, voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc, voilà, donc les enfants privés de famille administrativement, c'est très complexe. Mais il faut juste savoir une chose, hein, c'est que ça, quand un pays, un État n'est pas un État civil, la loi s'applique à toutes les confessions. Je prends l'exemple du Liban. Ça s'applique aux chrétiens, etc. Au Maroc, il n'y a pas de chrétiens, pas de christianisme, il y a le judaïsme. Donc, il y a des personnes marocaines de confession juive. Ouais. Donc, ça s'applique. Ouais. Donc, c'est leur religion qui prime. C'est leur charia, entre guillemets, hébraïque. Voilà, c'est la loi hébraïque qui prime. Ce n'est pas un état civil, c'est la loi des textes. Bah, le judaïsme est misogyne. Ouais. Déjà, les femmes marocaines de confession musulmane, elles héritent de moitié, les femmes juives marocaines de zéro. Dans les textes religieux, dans la Torah, les femmes juives n'ont pas le droit. Donc voilà, il faut juste retenir que le Maroc est une monarchie absolue de droit divin. C'est zéro. Le roi du Maroc est donc commandeur des croyants. Enfin, d'ailleurs, au demeurant, j'ai toujours envie de rajouter des croyantes. Surtout des croyantes. Et donc ça veut dire voilà, que c'est comme l'équivalent du pape pour le pays. Voilà, c'est un peu ça. Et donc il est descendant, considéré, descendant du prophète. Les gens ont souvent comme référence un état civil, comme la France, donc où les droits sont les mêmes pour les femmes et les hommes. Je parle dans les textes, pas dans les faits. Mais voilà, donc les droits sont les mêmes parce que c'est civil. Et le mariage est civil. Après, si une personne a envie de faire un mariage religieux, libre à elle. Mais ce qui est reconnu, c'est le mariage civil. Parce qu'on sépare le religieux du politique. Dans des pays comme le Maroc, le religieux et le politique ne sont pas séparés. Donc, c'est pour ça qu'on parle de laïcité. Je sais que ce terme, il y a beaucoup de personnes qui ne l'apprécient pas parce qu'ils parlent de laïcité. Enfin, ça dit genre, oh, laïcité à la française, on n'est pas fan. Non, moi, ce que je connais, c'est le terme laïcité, c'est séparer le religieux du politique.
Bah, voilà. C'est la vraie signification.
Pour moi, il faut séparer le religieux du politique et la religion n'a pas sa place dans les droits humains et encore moins dans les droits des femmes et des enfants. Donc c'est un peu... c'est un peu beaucoup. C'est un peu ma lutte. C'est pour ça que quand je me revendique féministe laïque, c'est pas très apprécié et pas très compris. En France aussi. Hein.
Partout. Oui, en fait, j'allais dire.
En France aussi, je ne suis pas très... je suis censurée.
On ose te traiter d'islamophobe
donc, en France. Donc voilà. Donc, c'est moi, c'est juste pour dire que chaque personne a le droit de pratiquer sa religion. Mais imposer une religion à tout un peuple, c'est du fascisme. Et imposer des pratiques, ça devient une dictature religieuse. C'est vrai que je condamne des lois et des pratiques liberticides au Maroc, dont les femmes, comme je disais, les enfants sont les premières victimes. Après, le patriarcat, c'est le même partout. Le patriarcat existe partout.
Je suis d'accord.
Donc, mais si on rajoute effectivement un patriarcat religieux qui est mis en place, parce que le patriarcat religieux existe aussi en France, mais c'est pas dans les lois.
C'est ça.
Parce qu'il y a un patriarcat religieux des personnes musulmanes en France, des personnes juives, les cathos, que ce soit contre l'avortement et autres, homophobes. Mais c'est pas dans la loi, c'est la différence.
Ce
patriarcat religieux donc est présent, mais en plus il est institutionnalisé.
Et
c'est vraiment ce côté institutionnalisé qui bloque. Et après, je ne dis pas que dans les autres pays comme la France, il ne faut pas continuer à se battre, parce que c'est pour ça ne revienne pas en arrière, justement. Voilà, c'est parce que ces gens-là manifestent, demandent à ce que l'avortement soit... qu'il n'y ait plus de l'avortement parce que voilà, que sont contre le mariage des personnes homosexuelles, etc. Donc oui, il faut toujours se méfier. Comme les droits des femmes sont jamais acquis, il faut se méfier aussi du patriarcat religieux, même quand on pense que dans certains pays, il n'est plus présent. Non, c'est bien là. Et puis, on le voit dans les pays d'Amérique du Sud, l'Amérique latine, le patriarcat religieux, ou aux États-Unis.
Ouais, ouais.
la main mise sur les droits des femmes et les droits des minorités. Hein, c'est une réalité où les, voilà, les personnes homosexuelles ont fait voter maintenant des lois un peu partout, complètement homophobes et lesbophobes. Donc,
donc toutes les religions sont misogynes.
Ah ben ça, toutes les religions sont misogynes. Au Salvador, c'est quand même jusqu'à 50 ans de prison hein, pour les femmes qui avortent. Ouais. Hein, ouais, parce que c'est considéré comme un...
Il y a des femmes qui ont fait des fausses couches qu'on a mis en prison.
Alors déjà il y a celles qui font des fausses couches et ça effectivement la justice ne cherche même pas à savoir si c'est réellement une fausse couche. Mais l'avortement en lui-même est considéré comme comme un meurtre. Donc voilà. Et pour conclure, je vais parler de la question de droit à l'avortement, puisque malheureusement, tu n'es pas restée assez longtemps. Donc là, on n'a pas rencontré de femmes les quelques jours où tu étais là. Il y a des rendez-vous pour ce week-end et la semaine prochaine, mais tu ne seras plus là. Et donc, c'est cet accompagnement qu'on fait des femmes qui souhaitent avorter au Maroc, sachant que c'est interdit, qu'on prend des grands risques. Puisqu'on risque évidemment malheureusement la prison et que voilà, mais qu'on le prend parce que notre lutte pour le droit des femmes à disposer de leur corps est un droit fondamental et que le patriarcat, religieux ou non, contrôle le corps des femmes. Et voilà, donc du coup nous avons mis en place un accompagnement d'avortement médicamenteux. Ça, je n'en avais pas parlé justement dans ton émission. Enfin, j'avais parlé de notre lutte, mais je n'avais pas dit que j'accompagnais les femmes et qu'on mettait en place des accompagnements, c'est-à-dire qu'on a un suivi, qu'on les rencontre, qu'on leur donne le médicament et qu'on suit un peu après, donc si tout s'est bien passé, etc. Après, il faut savoir que...
Vous qui accompagnez ces femmes, vous risquez vous aussi...
C'est nous qui risquons plus que ces femmes, parce que je le dis à visage découvert, les femmes, on ne les connaît pas. Les femmes, elles sont anonymes, donc moi, je le dis à visage découvert, et j'ai été filmée à maintes reprises, ça fait quand même 10 ans. Donc voilà, je suis passée dans plein de médias internationaux, et je le pose sur les réseaux sociaux. Donc oui, je prends un risque en disant, on peut m'arrêter à n'importe quel moment, parce qu'il y a des preuves que je le fais, puisque je le dis, puisque je le filme. Donc,
ils t'ont pas arrêté encore.
Parce que grâce au pouvoir médiatique, il y a eu quand même beaucoup de buzz sur ces questions-là. Sur notre première action de 2012, où on a commencé à se lancer dans cet accompagnement, action avec l'ONG néerlandaise, mais ça, j'en avais parlé dans l'émission. Et donc... Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup cet accompagnement-là, mais c'est très compliqué parce que nous n'avons pas les moyens, nous ne sommes pas une association, nous n'avons pas de moyens financiers, nous n'avons pas de local, nous n'existons pas juridiquement. Il faut pouvoir trouver les médocs parce que ça ne se vend pas au Maroc, ou du moins ça ne se vend plus. Parce que ces médicaments se vendaient au Maroc parce que ça traite l'arthrose, ça soigne l'arthrose, mais suite à l'ampleur qu'ont prise nos campagnes, le Maroc a fait sauter l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. Et donc, du coup, c'est à nous de nous débrouiller pour essayer de nous le faire envoyer ou de le récupérer d'ailleurs, quoi, d'autres pays, de différentes associations qui pourraient nous en faire don. Ce n'est pas facile. On se sent complètement impuissant quand on ne peut pas aider toutes les femmes.
Peux rappeler le cadre légal de l'avortement pour le Maroc, alors
L'avortement est totalement interdit, sauf lorsque, mais je l'avais dit dans l'émission, lorsque la santé de la femme enceinte est en danger. Et pour ça, il faudrait l'autorisation du mari pour qu'il puisse avorter. Donc sinon, s'il ne donne pas l'autorisation, elle meurt, quoi. Et il y a un projet de loi dans les tiroirs depuis 2015, et nous, on est contre ce projet de loi, qui voudrait dépénaliser l'avortement dans certains cas. Donc malformation du fœtus en cas de viol et inceste. Ouais. Et nous sommes contre ce projet de loi parce que ce sont des hommes qui ont mis ce projet de loi en place, que des hommes, aucune femme. Ouais. Et donc ce serait encore nous soumettre aux désirs et aux injonctions du patriarcat et diviser encore les femmes. Donc il y aurait des femmes à qui on donnerait la possibilité d'avorter et puis d'autres non. Non, le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est pour toutes les femmes. Le droit à l'avortement, c'est pour toutes les femmes. Mais on n'a pas à en connaître les raisons. Et c'est encore plus terrible pour ce qui consiste le viol. C'est-à-dire qu'en plus, la jeune femme ou la femme en question va devoir étaler sur la place publique son viol, si elle n'a pas...
peut-être la possibilité.
Voilà. Et encore faut-il prouver le viol quand on sait que... On te dit, ah non, t'as pas violé, t'es sûr, non, etc. Ouais. Donc, de toute façon, ça, c'est juste, je donne des petits détails, mais on n'a même pas à rentrer dans ces détails-là. Ouais. Droit à l'avortement, pour toutes, ce sont les femmes qui décident. Ce projet de loi est encore dans les tiroirs, de toute façon, depuis 2015, et nous avons été très choqués et indignés de voir que les féministes avaient applaudi ce projet de loi marocaine.
Ah, voilà. Ah, justement, on devait reparler de ça, tu me disais le 8 mars, tu m'avais dit, à Rabat, il y avait des féministes...
Bah, en fait, de temps en temps, le 8 mars, c'est pas que le 8 mars, il y a souvent des petits rassemblements, etc. Mais que ce soit rassemblement, manif ou autre, ça n'engage que moi ce que je dis. Ouais. Moi, je trouve les revendications très soft et très lisses. Ouais. Les revendications se résument toujours et se limitent toujours depuis des décennies à l'égalité. En arabe, le mot égalité étant au pluriel. Voilà. Le moussawet, les égalités. Non, d'ailleurs, nous, on ne recherche pas l'égalité. En fait, nous, on veut la liberté, les libertés. On ne veut pas être l'égal des hommes, en fait. C'est passé. Voilà. Donc, non. Et puis, c'est je lisais dernièrement une féministe qui a écrit que Morgan, qui répondait à une interview et qui disait que quand même revendiquer le droit de disposer de son corps c'était trop, qu'il fallait être plus soft au Maroc. Ah bon. Parce qu'elle reste donc dans le cadre.
Une femme ne doit même pas pouvoir elle-même disposer
pas
de
pas le...
ne doit même pas le revendiquer.
Non, voilà, ne pas l'exprimer de cette manière. Pas dire mon corps, mon choix, j'en fais ce que je veux. Ah bon. On est en 2022, franchement, quand je lis ça, quand je lis aussi qu'une féministe marocaine, sociologue, a fait un papier où elle fait part d'un slut-shaming sans précédent contre des femmes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, qu'on n'adhère pas à cette vidéo est une chose, qu'on puisse les critiquer est une chose, mais qu'on attaque personnellement ces femmes-là qui font ces vidéos... et qu'on les attaque sur leur physique, sur leur corps, c'est du slut-shaming, quoi. Ouais. Sachant qu'en plus, l'hypersexualisation du corps des femmes, ce ne sont pas les femmes qu'il faut attaquer. C'est peut-être justement tout le système patriarcal et capitaliste, etc., qui hypersexualise le corps des femmes et qui fait passer des messages par rapport à cette hypersexualisation, cette pornification du corps des femmes. Donc voilà, donc bon, moi, au Maroc, de toute façon, je suis... ça m'a pour rien que je suis persona non grata, vu que, voilà, je suis très, très loin du mode de militantisme et des revendications trop politiquement correctes et trop lisses et qui demandent en plus la validation des hommes. J'ai énormément de mal.
Mais tant mieux.
Voilà.
Ok.
Voilà, donc c'est la fin de l'interview d'Ibtissam Betty Lashgar. Et j'avais été aussi marquée par une publication qu'elle avait faite sur les réseaux sociaux avant de la rencontrer. Et c'est aussi ce qui m'avait encouragée ensuite à la contacter parce que j'avais apprécié sa publication. Donc c'était une publication du collectif Abolition Porno-Prostitution dont elle fait partie, qui disait « Nous sommes nés dans des familles et société musulmane pour certaines du collectif. Avons eu une instruction islamique en terre d'islam pour beaucoup. Collectif de survivantes de la porno-prostitution et de féministes en lutte contre le patriarcat et pour l'abolition de l'industrie porno-criminelle, de la prostitution, de la GPA, de la culture du viol. Apostate parce que toutes les religions sont misogynes et l'islam ne fait pas exception. L'apostasie est passible de la peine de mort en Afghanistan, Arabie Saoudite, Brunei, Émirats Arabes Unis, Iran, Maldives, Mauritanie, Qatar, Somalie, Yémen et dans les États Kelantan et Terengganu en Malaisie. Soutien absolu à toutes les personnes apostates de l'islam, en particulier en Afghanistan, au vu de l'actualité. Donc juste en dessous, il y a une fille qui avait fait un commentaire et qui lui dit « C'est l'actualité en Afghanistan qui vous inspire cette salve anti-musulman en France et comment vous situez le rapport avec la lutte porno-prostitution ?» Voilà ce que Betty lui répond, que je trouve vraiment excellent. Elle répond « À quel moment il est question de personnes musulmanes ? Nous parlons d'idéologie. Je vous écris de terre d'islam. J'y suis née et j'y vis. Écoutez les concernés. Premièrement, toutes les religions sont sexistes et misogynes et on le répète assez. Deuxièmement, la loi dans les pays dont l'islam est religion d'État est la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Il n'y en a pas d'autre. Les droits humains n'existent pas, car c'est la loi divine qui est constitutionnelle et il s'agit de droits musulmans, droits adoulaires. Ce sont des États religieux et non des États civils. Tout est fondé sur la charia. Du coup, mariage religieux, rapport sexuel hors mariage, case-prison pour les femmes. Qui dit mariage religieux dit « les femmes ne peuvent épouser un non-musulman, les hommes si ». Ah, et la dot, la fameuse dot. On demande la main de l'élu, au père, tuteur, on achète les femmes en somme. J'oubliais, si une femme divorce et qu'elle a des enfants, elle ne peut se remarier sans l'accord de l'ex-mari. Si, si, elle perd la garde sinon. Excusez-nous de nous battre pour nos droits et contre notre oppression. Votre commentaire nauséabond et néocolonialiste est une insulte. Au Maroc, les libertés individuelles sont étouffées. Nous vivons une inquisition socio-religieuse, voire l'article 222 qui dit de ne pas rompre le jeûne en public. Et subissons des articles liberticides en ce qui concerne la liberté sexuelle, l'homosexualité, comme les relations sexuelles hors mariage et ou adultérines sont interdites. Le code 489 criminalise l'homosexualité, le 491 l'adultère, le 490 le sexe hors mariage, le 420 crée une circonstance atténuante pour l'adultère, pour un féminicideur. Donc encourage les crimes d'honneur. Le 475, un homme qui détourne ou enlève une mineure ne sera pas poursuivi s'il l'épouse. 222 du code pénal, prison si une personne connue musulmane rompt le jeûne. Quand certains vous disent que les talibans ont une vision obscurantiste de l'islam, ce qu'ils tentent de vous faire croire, c'est que tout cela dépend du degré de sexisme dont ces misogynes veulent faire preuve, selon leur façon de lire et d'agir avec le Coran comme instruction. À ce jour, dans le monde, aucune forme ou vision de l'islam n'est exempte de sexisme. Parler d'un islam féministe, c'est comme parler d'un patriarcat féministe. Le Coran est le texte sacré de l'islam, sa place y est centrale. Le Coran est la source de la misogynie. L'islam est le patriarcat, le Coran est son outil. Se contenter, du moins pire, n'est pas une vision féministe, c'est de la lâcheté. Nous voulons éradiquer tous les outils qui permettent aux hommes de hiérarchiser nos vies et justifier leur domination. C'est une compilation de préceptes sexistes et essentialistes. Il instaure les codes de la féminité et de la masculinité, qui a pour but de hiérarchiser les hommes et les femmes, faisant des femmes, des enfants et des animaux les esclaves des hommes. Le but du Coran et donc de l'islam est de faire croire, de justifier la supériorité des hommes comme un fait naturel, quand il n'est basé que sur des préceptes religieux immatériels. Pour vous répondre par rapport au rapport avec la lutte contre la pornoprostitution, c'est simple, c'est dans les textes, dans les lois et pratiques sexistes. La culture du viol régit nos gestes et nos vies, parce que les lois relèvent des prescriptions coraniques et des hadiths. Les hommes auraient un cerveau reptilien et des pulsions sexuelles que les femmes doivent assouvir. Les mineurs sont mariés, le juge acte à la demande du patriarche. Le viol conjugal n'existe pas, c'est le devoir des épouses. Le compagnon qui n'est pas content répudie et ou en épouse d'autres en parallèle. Voilà, donc je salue son courage. Et il y a aussi un documentaire qui est sorti sur Arte qui est intéressant, qui s'intitule « Quand les musulmans se détournent de la foi ». Donc on ne parle jamais des athées d'origine musulmane, enfin des personnes qui aimeraient être athées, puisque comme je voulais rappeler, l'apostasie est interdite. Donc menace de mort, injure, rupture totale des liens avec les proches, c'est ce que peut subir un musulman qui a tourné le dos à la religion. L'apostasie est en effet condamnée par le Coran. Ceux qui se détournent de l'islam pourront se voir infliger un châtiment divin. Et donc ce documentaire d'Arte Regard retrace le parcours de 4 musulmans qui ont fait ce choix au terme d'un long combat. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre écoute, de votre soutien.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, lobo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Baixo, xo.
subo al drasadas, mujeres trafegadas, violadas dentro de todas las casas, mujeres edo mundo illadas. Ergámonos, mujeres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé.